Salut tout le monde, c'est Dame et bienvenue dans ce nouveau numéro de Damaturgie. Alors encore une fois, ça va être un sujet assez sérieux, je vais m'éloigner du monde professionnel pour revenir sur un sujet que j'avais promis de traiter il y a quelques numéros déjà. Et voilà, c'était il y a pas très longtemps la journée nationale contre le harcèlement scolaire, donc on en a entendu un petit peu parler dans la presse notamment, et il y a eu des actions également dans les collèges et lycées, et j'ai décidé d'enfin en parler un petit peu. Sachant que c'est peut-être pas une première, mais donc c'est la première fois que vraiment je vais donner certains détails que j'ai jamais dont j'ai jamais parlé à personne. Parce que voilà, j'ai mis déjà très très longtemps avant de parler sereinement de tout ça. Moi, j'ai vécu le harcèlement quand j'étais au collège en 5e, donc 5e ça nous mène à 12 ans. Et j'ai pris j'ai pris copieux au niveau mental, et je pense que j'ai commencé à parler de ça à peu près sereinement vers mes 25 piges, quoi. Peut-être même un peu après, et vraiment sereinement, et en faire une forme d'identité, c'est vraiment très récent. Ça date d'il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, que c'est vraiment devenu quelque chose qui me définit fortement et qui oriente beaucoup de ma façon de penser de façon transparente, notamment dans mon milieu professionnel, donc j'y reviendrai. Et donc oui, il y a plein de choses par contre pour lesquelles je reste très évasif, et bon, ce format-là, il permet de parler sereinement, donc allons-y. Et puis après tout, je sais aussi que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des parents. Et je pense que simplement avoir un point de vue de quelqu'un devenu adulte mais qui l'a vécu enfant, ça peut être intéressant de l'entendre. Histoire que vous. Je pense pas que vous pourriez détecter quoi que ce soit, malheureusement, et je vous expliquerai pour quelle raison. Mais bon, ça permettra peut-être de mieux comprendre ce genre de situation, si un jour vous découvrez quelque chose de ce goût-là, que vous soyez avec un enfant victime de harcèlement ou quelqu'un qui provoque du harcèlement, on verra bien. Alors, ça va être un peu perso, hein, je vais faire beaucoup de moi-je, mais bon, vous comprendrez. Alors en fait, moi, ça a commencé en cinquième, au début de la cinquième, l'âge de merde. Quand on dit l'âge con, c'est vraiment celui-là. On n'est plus les petits sixièmes encore tout mignons que les profs de collège adorent. Je le sais pour travailler avec eux régulièrement. Les sixièmes, ils les appellent les petits sixièmes parce que c'est vraiment ça. C'est encore tout chou. Et puis arrive un moment de décrochage qui est celui de la cinquième. Sans doute pour des tas de raisons différentes liées à la socialisation, à la puberté, à un mal-être, à plein de choses. Mais c'est l'âge de merde par définition. Et moi, je l'ai pris bien dans la gueule. Et la raison pour laquelle j'ai été harcelé, ça va vous sembler. Pour certains, vous allez vous dire, bah oui, évidemment. Et pour d'autres, vous allez vous dire, bah c'est complètement con, mais c'était quand même ça. Moi, je me suis fait emmerder parce que j'étais l'intello de la classe. On peut se faire emmerder parce qu'on n'a pas les mêmes fringues que les autres, parce que voilà, on a des soucis liés à l'hygiène ou je sais pas quoi, parce qu'on vit dans telle ou telle condition. Des fois, on est tête de turc, on sait même pas pourquoi. Moi, c'était déterminé, hein, c'était parce que j'étais l'intello. À comprendre l'intello, moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que j'ai fait contre ça? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'était même pas l'intello ostensible, arrogant ou autre chose. Moi, j'étais l'élève qui avait toujours bien travaillé et pour lequel. Simplement, je me posais pas la question. J'étais à l'école, je faisais ce qu'on me disait, ça marchait, donc du coup, voilà. Donc j'en ai pris plein la gueule parce que j'étais l'intello de la classe. Alors sans doute aussi parce que je faisais pas partie d'un camp particulièrement populaire, j'étais pas ni sportif, ni rien. Le gamin lambda, quoi. Vraiment lambda, comme vous pouvez pas plus imaginer. Et comment ça s'est manifesté? Au départ, ça part pas en vrille tout de suite, évidemment. Sinon, ça s'appellerait pas du harcèlement, bien que le harcèlement arrive très vite, hein. Ça a commencé par des moqueries, donc de cet ordre-là, l'intello, machin, des bousculades dans les couloirs, sans qu'on sache pourquoi ça arrive, on se prend un coup d'épaule, puis un deuxième, enfin bref, ce genre de truc, des provocations, verbales, dans le regard, vous savez, ce genre de truc, on s'avance vers quelqu'un comme si on allait le frapper, ce genre de truc, et il y a toujours quatre débiles pour se marrer derrière. Et voilà. Et donc du coup, tout ça, ça engendre quoi? Ça engendre de la crainte. Quand on est fragile comme je l'étais à l'époque, ça engendre des pleurs. Et là arrive le cercle vicieux, parce que forcément, on pleure et ça se fait pas, hein. Un petit garçon qui pleure, oulala. Et donc du coup, on se fout encore plus de sa gueule. Et voilà. Et ça devient une spirale absolument infernale, parce qu'on n'ose plus pleurer, donc on se réprime fort. Et du coup, on prend encore plus cher. Et enfin, c'est vraiment horrible. Et voilà, donc c'était vraiment le cercle vicieux. Alors, sachant que dans mon cas, le harcèlement, c'était un meneur, on va dire un meneur suppléant, et puis après, quelques suiveurs. Donc, c'était un groupe de 4 ou 5 personnes. Et en fait, ça a engendré un climat de terreur qui fait que de toute façon, je me sentais seul. Parce que en plus des terreurs, il y avait aussi le reste, c'est-à-dire ceux qui prenaient pas position et qui voyaient tout. Et qui parfois ricanaient, et c'était même une majorité, je pense, des personnes restantes, qui ricanaient de ces conneries-là. J'en reparlerai après, éventuellement, si j'oublie pas de le faire parce que j'ai pas pris de notes. Mais ça me rappelle notamment une chanson d'un rappeur qui s'appelle Token, je vous en reparlerai après. Donc voilà, donc ça, c'était comme ça. Et puis j'ai un souvenir très précis. Alors, savoir, j'ai des problèmes de mémoire, ça je le dis souvent quand je fais mes épisodes d'écoute ça, ou les Super Cover Battle. J'ai vraiment des problèmes de mémoire, c'est pas du cinéma. Bien que j'ai pas diagnostiqué quoi que ce soit, mais voilà. Et je me demande si ça vient pas de là, parce qu'en fait, j'ai un véritable blackout. De quasiment une année scolaire entière, comme si je l'avais pas vécu. Les seules images que j'ai en tête, c'est justement des images de violence comme celle-là, et j'en ai très peu. Et il y en a une qui me marque plus que les autres. C'était en cours d'anglais, j'avais une prof d'anglais qui s'appelait Madame. Je vais pas donner son nom, ce serait pas très cool. Mais je m'en souviens de son nom. Elle débutait. Et à un moment donné, j'étais au tableau, et pendant que j'écrivais quelque chose au tableau, il y a une paire de ciseaux qui est venue taper dans le tableau juste à côté de moi, quoi. Mais à, je sais pas, 40 ou 50 cm à peine. Une paire de ciseaux. Et là, en fait, c'est le moment où on arrive vraiment dans la terreur, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans un mécanisme de violence. Et la professeure, dans mon souvenir, a pas du tout réagi, en fait. Alors, je pense maintenant, avec du recul, que c'était quelqu'un qui était pas équipé, pas formé, parce qu'on forme pas les enseignants. Hein. Et encore moins à cette époque-là. Elle se faisait déjà bouffer par ses classes, donc intervenir là-dessus, c'était juste. Je pense qu'elle était terrifiée en fait. Mais elle m'a pas aidé. Je pense qu'un adulte qui n'aide pas un enfant dans ces conditions-là, c'est une faute professionnelle. Bien que moi, je n'en veuille pas parce que je connais le fonctionnement de l'interne maintenant et je vois à quel point l'éducation nationale, c'est n'importe quoi. Mais ça n'empêche que voilà, y a eu ce moment-là. Donc vraiment l'horreur. Alors après, on va se poser la question de la famille, etc. Ouais, mais la famille, est-ce qu'elle a réagi? Est-ce qu'elle a vu? Ah ben justement, c'est pour ça que je parlais des parents au début. Non. Non, parce que quand on vit ça, en fait, c'est déjà l'enfer. C'est déjà l'enfer dans le collège. On n'a pas envie de ramener ça à la maison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que l'époque aujourd'hui est bien pire. On connaît les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Aujourd'hui, les enfants enfermés dans leur chambre ne sont pas en fait éloignés de leurs camarades de classe. C'est là où tout ça est tragique. Et c'est à mon avis pas complètement étranger à l'augmentation. J'imagine que c'est une augmentation et j'aurais du mal à imaginer autrement des cas de suicide ou de tentatives de suicide chez les plus jeunes. Parce que oui, moi à l'époque, j'avais même pas imaginé que ce soit possible d'attenter à sa propre vie. Pour moi, c'était juste j'allais douiller et puis voilà. Peut-être que c'est pas allé assez loin, j'en sais rien. Mais je suis jamais tombé dans la scarification et le reste, même si ça existe beaucoup. Donc ma famille n'était pas au courant. Il n'y a pas eu de baisse de niveau dans ma scolarité, dans mon souvenir. Voilà, moi j'avais peur en fait en arrivant au collège. J'avais tout un moment, moi je faisais toujours le trajet à pied. Et je savais qu'il y avait une rue en particulier qui était celle d'arrivée au collège qui devait faire dans les 150 mètres. Et il y avait un abribus. Alors la sociologie des abribus, c'est aussi quelque chose dont parle d'ailleurs Édouard Louis dans En finir avec Eddie Bellegueule. La sociologie des abribus, l'abribus qui est le repère des terreurs du quartier. Voilà, moi j'avais peur de ça. Donc je longeais les murs près de la boulangerie parce qu'il y avait un parking, etc. Ça me permettait d'éviter l'abribus. Et puis, éviter l'attroupement devant le collège tant que les grilles n'étaient pas ouvertes, ce genre de choses. Donc vraiment, c'était ça ma terreur. Mais après, je retrouvais mes parents et puis je revenais à la normale. Alors j'ai malgré tout un souvenir aussi de ma mère qui est intervenue à un moment donné. Parce que je me souviens, alors j'ai dû craquer dans la voiture. Je pense que j'ai dû craquer, pleurer, ou ça n'allait pas. Ma mère a poussé plus qu'elle ne poussait d'habitude. Parce que, en fait, j'ai pas de souvenir, mais j'ai du mal à imaginer que ma mère s'en soit pas rendue compte. Et là, c'est un des moments où je me rends compte que oui, elle s'en est aperçue. Elle avait garé la voiture. En fait, on est passé à côté du connard en question. Ma mère, en fait, a tourné. Elle est montée sur le trottoir en coupant vraiment le trottoir entièrement. Vous savez, vraiment imaginez, elle se garait à travers les places pour mettre le pare-choc de la bagnole contre le bâtiment qui forme le trottoir pour descendre et aller gueuler sur le gamin. Ça, je m'en souviens vraiment bien. C'était vraiment marquant parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai me décomposé. Je me disais, putain, fais pas ça, ça va être pire. Dans mon souvenir, j'arrive pas à me dire si ça a été pire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça s'est pas arrêté là. Parce que je me souviens de la fin de tout ça. La fin, ça s'est arrêté parce que mon frère, qui connaissait en fait des gars qui étaient aussi, pas des terreurs, mais bon, des gentils fouteurs de merde du collège, quoi. Donc des gens qui foutent un peu le souk en cours, mais qui peuvent être défendus par d'autres profs parce que ça tombe jamais dans la violence. C'est voilà, des gars qui étaient en difficulté scolaire, mais qui en rigolaient, quoi. Et mon frère, il faisait partie de ce groupe-là. Alors lui, c'était un gentil, il n'était pas du genre à emmerder le monde. C'était un même, je pense qu'il était avec eux et qu'il se faisait emmerder, mais bon, il ne ressentait pas de souffrance particulière, c'était potache, quoi. Et en fait, parmi ce groupe-là, il y en avait un qui était quand même quelqu'un dont les autres se méfiaient un peu, qui faisait un peu plus peur que le reste, parce que sans doute les années précédentes, il était un peu plus menaçant et dangereux. Toujours est-il que ce gars-là, en fait, à un moment donné, il est allé chercher... bah voilà, mon frère avait dû lui en parler, et il est allé chercher le meneur. Et je m'en souviens vraiment, il a... C'est marrant, je m'en souviens, alors je disais je me souviens de rien, mais comme je vous dis, c'est les seuls éléments qui me restent. Et il est allé chercher le gars près du tableau d'affichage et il l'a chopé, je me souviens, il l'a attrapé par le col et il l'a soulevé. Parce que le connard qui m'emmerdait était vraiment pas très costaud, quoi. Et il l'a pris et il l'a soulevé. J'ai vu ses pieds se lever, il l'a claqué contre le truc et il lui a dit « Toi, t'emmerdes plus le petit machin dans mon nom de famille. T'as compris. » Et le gars, vraiment, genre, en plus, il est arrivé, mais sans prévenir, quoi. L'autre était avec ses copains et ils avaient beau être 5 ou 6, il s'en fout, il l'a chopé, il l'a claqué là. Et a dit, en gros, je te plie la gueule si tu t'en prends encore à lui. Et du jour au lendemain, plus rien. Plus rien parce qu'il était terrifié, cet abruti. Et les autres, c'était pareil, parce que quand c'est comme ça, il suffit de couper la tête et c'est tout, ça s'arrête aussi net. Et voilà, en fait, il y a d'autres choses que je souhaitais aborder. Je vois qu'on est déjà à 11 minutes, je vais essayer d'abréger, mais... En fait, le truc, c'est que je pense aussi à la question des familles, et puis les amis, mes amis, c'est les premières vraies trahisons amicales, elles étaient à ce moment-là. C'est-à-dire que mon meilleur pote à l'époque était pas un gars que j'adorais à l'époque, hein, mais qui était un mec pas très futé. Je pense que c'est bête, hein, ce que je veux dire, ça va peut-être paraître un peu méprisant. Mais en fait, moi, c'était des nuls en classe qui m'ont emmerdé. Et mon pote était un nul en classe. Le fait que moi je l'aide pour faire ses devoirs et tout le reste, il s'en foutait pas mal. À cet endroit-là, c'était un nul en classe. Et donc lui, il n'est jamais intervenu pour me défendre. Et il a jamais. Et c'est pire que ça, c'est qu'après, je l'ai vu fréquenter ces connards-là. C'est-à-dire que les années d'après, moi je l'ai vu, on s'est éloigné, fréquenter les personnes qui m'avaient causé du tort et qui m'avaient fait énormément de mal. Donc voilà, et moi à ce moment-là, je me dis, entre débiles, voilà, vous vous êtes retrouvés, c'est génial. Donc ça a été un vrai truc difficile à gober. Alors ça, et ça m'a déterminé en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes relations amicales, je peux être très ami avec des gens géniaux, j'ai rencontré des gens fabuleux depuis que je suis dans ma vie d'adulte. Par contre, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est pas du tout une souffrance pour moi, c'est pas du tout compliqué à gérer, et je pense que c'est à ce moment-là que c'est né. C'est. Voilà, c'est une période de la vie, et ça peut s'arrêter. Bon, pas forcément pour de si mauvais termes, mais voilà. Alors la question, c'est aussi les profs, parce que là, j'ai parlé de la famille, j'ai parlé des amis. Les profs, les profs, rien. Rien, alors cette prof d'anglais, rien. Je pense que mes profs étaient au courant, je peux pas imaginer qu'ils l'étaient pas. Je sais pas si ça se discutait pendant les conseils de classe ou ce genre de choses, j'en sais rien, toujours est-il que moi j'ai pas vu d'effet. J'ai eu quelques moments où il me semble il y a eu des convocations, des choses comme ça, mais ça n'y a pas eu de conséquences. Moi je suis très très amer hein, sur le système là-dessus. Il s'est rien passé. La seule chose que je peux à la limite lier à ça, et c'est arrivé plus tard donc je suis même pas sûr, c'était ma prof d'anglais, et là pour le coup je peux donner son nom, Madame Favre. Si Madame Favre m'écoutait un jour, je voudrais l'embrasser. Madame Favre, c'est la personne qui a changé ma vie. On en a tous un prof dont on se dit ah tiens, il y a un moment où il a changé ma vie. Parfois parce qu'il a juste donné goût à quelque chose. Moi c'est plus fort que ça. Ma prof d'anglais, c'est la personne qui m'a orienté vers mon lycée, parce que pour moi la logique c'était de suivre le collège et le lycée de secteur, et elle en fait clairement elle m'a dit elle m'a fait passer des entretiens pour faire de la section euro, pour après quitter l'endroit où je me trouvais pour aller dans un lycée de centre-ville. Et c'est ça qui a changé ma vie, c'est ce qui a formé ma personnalité, le moment où je me suis émancipé, c'est ça. J'en parlerai peut-être un jour. Voilà, c'est elle qui m'a fait passer tout ça. Et je pense qu'à cet endroit-là, peut-être qu'elle a aussi identifié l'idée de « cet endroit-là, il est néfaste, ça va remerder, donc barre-toi tant que tu peux ». Peut-être. En tout cas, voilà, c'est comme ça que c'était passé pour moi. En tout cas, la moralité de tout ça, c'est que dans toutes ces conneries, les comportements violents des autres se sont arrêtés parce qu'il y a eu un comportement violent qui a été au-dessus du reste. C'est très malheureux. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai l'impression que ça ne peut pas se passer autrement, en tout cas en l'état actuel des choses. Et c'est un crève-cœur que de l'admettre. Alors là, c'est là qu'on arrive sur la question du point de vue perso et pro, parce que quand j'évoque ces questions-là sur Discord, notamment avec les personnes qui discutent avec moi, je le dis toujours, moi, j'arrive pas à être jugé parti. Moi, j'ai vécu le harcèlement et donc ma grille de lecture est celle-ci. Moi, je pars du principe que si on est, voilà, si on est sur un lac et on est dans une barque et là, il y a quelqu'un qui pousse quelqu'un d'autre et qui le fout dans la flotte. On a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et ben la personne qui est en train de se noyer, on se fout pas mal de pourquoi la personne a fait du mal. On se fout pas mal de savoir si celui qui a poussé est traumatisé dans son enfance, s'il a lui-même subi quelque chose. On s'en fout. On va d'abord chercher le gamin. On va ch d'abord chercher la personne qui se noie. On la ramène sur la barque. Une fois qu'elle est sur la barque, on s'assure qu'elle va bien. On l'amène sur la berge. On la réchauffe et on s'occupe d'elle. Et le reste, la personne à côté. On s'en fout pour le moment. On s'en fout. La sanction arrivera après, parce que oui, il y aura une sanction. Et les explications viendront avant la sanction. Mais de toute manière, on s'en tape. On s'occupe d'abord de la personne qui est tombée à l'eau et on s'en assure sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas tout de s'assurer que voilà, demain tu te feras pas taper dessus quand tu arriveras au collège. On s'assure que ça ne se reproduira pas et on s'assure qu'il n'y ait pas de dégâts psychologiques insurmontables. Et malheureusement, bah si, il y a des trucs qui forment des adultes. Après, il y a des grilles de lecture qui s'installent. Et là-dessus, moi, je sais que j'étais abîmé et qu'aujourd'hui, clairement, il y a des choses qui ont été détruites. Et voilà, c'est un trauma, c'est un véritable trauma. Donc, clairement, la question des harceleurs, bah, je vais dire un truc un peu dur, mais je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal. C'est pas mon problème. Moi, ce qui m'importe, c'est les personnes qui ont subi quelque chose. Ensuite, sur la question des harceleurs, une fois qu'on s'intéresse à eux, moi j'ai un point de vue extrêmement dur sur ça. C'est qu'il peut y avoir plein d'explications, mais à un moment donné, si on veut que ça s'arrête, il faut sanctionner. Il faut sanctionner fort et il faut faire en sorte qu'il faut réprimer le comportement harcelant. Et je sais que c'est problématique de parler comme ça. Mais c'est aussi l'intérêt dans mon milieu professionnel que de jamais intervenir seul sur ces questions. Moi, je pense que le préchi-précha et le discours, on va dire, administratif, c'est une part du travail qu'il ne faut pas négliger, mais ce n'est pas la mienne. Et donc, oui, il y a tout un travail à faire pour faire en sorte que les comportements harcelants cessent, mais avant tout, on met en sécurité les victimes. Point. Et le reste, je m'en fous. Et aujourd'hui, quand je dis que je suis abîmé, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est animé par tout ce qu'on peut imaginer de bonté d'âme, de bah voilà, à côté les droits de l'homme, tout ça. Ouais, je pense être quelqu'un d'humaniste, profondément humaniste. Pour autant, je vous dis pas ce que j'ai dans la tête par rapport aux personnes qui m'ont fait du tort quand j'étais en cinquième, hein. Parce que encore adulte aujourd'hui, je pense que ça se passerait très mal si j'étais mise devant. Et le copain en question, le traître en question, aujourd'hui, il habite pas loin de chez mes parents. Il est hors de question que je le croise du regard. J'ai envie de le pulvériser aujourd'hui. Et pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement doux. Mais ça, c'est détruit. C'est détruit, c'est abîmé et c'est pas raisonnable. Et je sais qu'on va essayer de m'en parler, qu'on va revenir là-dessus sur Discord. Faites-moi confiance. Quelqu'un qui a 35 piges aujourd'hui, qui a 20 ans de dégâts dans sa tête, vous le ferez pas changer. C'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai fait mon chemin et je sais que je réagirai très bien sur plein de choses, mais pas sur ça. Donc c'est pas la peine d'essayer. Et malheureusement, ben, deal with it, quoi. Le tort, il a été fait. Moi, j'ai rien demandé à personne quand j'étais gamin et que j'ai subi ça. Alors, je conclurai parce que là, on arrive déjà presque à 20 minutes, mais je conclurai par bah voilà, quelques mots pour les personnes qui sont parents. Sachez que ça vous échappera. Il faut faire preuve d'humilité. Ça vous échappera. Un enfant harcelé, quelqu'un qui subit des violences comme ça, il n'en parlera pas. Et c'est normal. Et vous pourrez faire preuve d'autant de vigilance que vous voudrez. Être informé, c'est déjà une première forme de vigilance, mais elle suffira sans doute pas. Et ouais, il va falloir guetter des signes extérieurs, il va falloir. Et malheureusement, il y aura plein de choses qui seront cachées. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est là que les premiers signaux d'alerte doivent vous alerter vraiment très fort. C'est que généralement, les premières failles dans la digue, en fait, c'est que ce n'est pas les premières failles. Avant que ça soit des failles, c'est que ça s'est érodé en amont. C'est aussi bête que ça, hein. mais je parle de failles, de trucs qui s'érodent. C'est vraiment, faut l'imaginer, c'est un mur de pierre. Avant de voir une faille, et ben en fait, il a fallu que ça soit, bah ouais, qu'il y ait eu de l'érosion derrière. Il y a eu de la fragilité avant. Et vous verrez les failles, et là, faudra intervenir hyper vite, parce qu'au moment où la faille arrive, c'est que c'est déjà trop tard. Vous ne pouviez pas intervenir avant, mais par contre, il faut être hyper présent à cet endroit-là. Et il faut être hyper interventionniste. Et là-dessus, je donne un point de vue, moi, je ne suis pas parent. Et du coup, bah voilà, je vous dis comment moi je vois les choses de l'intérieur. Intervenez immédiatement auprès des institutions scolaires, intervenez auprès des principaux de collège, des professeurs principaux, etc. Et intervenez hyper fort, parce que c'est pas forcément par confort hein, qu'on se méprenne pas, c'est pas forcément par confort, c'est pas non plus par fainéantise, mais souvent on sous-estime en fait. Et je pense que beaucoup de personnes en fait sous-estimeront parce que simplement. À certains moments, c'est plus facile d'intervenir. Je ne sais pas où est le mécanisme de protection, mais je pense que c'est un mécanisme de protection. On finit par sous-estimer le truc. Donc le jour où vous devez intervenir, vous intervenez avec force, brutalité, s'il faut. C'est-à-dire interpeller, mais vraiment très fort, en rappelant à leurs obligations les principaux de collège et compagnie, menacés de dépôt de plainte pour non-assistance, etc. Ce genre de truc, mais allez-y brutalement. Parce que sinon, ça ne se réglera pas. Voilà. Alors, c'est qu'un témoignage, hein. Il y en a d'autres pour qui ce sera bien pire. Il y en a qui auront subi des vraies violences avec bah voilà, des violences physiques, d'autres qui auront pu avoir des violences sexuelles, avoir des insultes répétées, des choses qui durent pendant des années. Il y a des témoignages comme ça tous les ans à la télévision pendant les émissions avec des gens qui ont subi ça pendant des années et je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre. Il y a des gens pour qui ça va être très ramassé sur un temps très court mais qui peut être dévastateur. Mais voilà, donc les parcours sont toujours différents. J'ai donné que le mien. Et ça n'a pas valeur d'exemple, c'est un parmi tant d'autres. Ma façon de penser, c'est la mienne. Donc voilà, c'est juste un témoignage. Je vais te promets que j'en parlerai. C'est la première fois que je le fais comme ça, à cœur ouvert. C'est la première fois que je le fais avec autant de calme. Si j'avais dû faire ça il y a 10 ans, je pense que j'aurais éclaté en sanglots au bout à peine 3 minutes. Maintenant, c'est un discours que je sais froid, très clinique. C'est ma façon de pouvoir articuler tout ça. Bref. Donc voilà, si vous souhaitez parler de tout ça, point de vue de parents, d'anciens harceleurs, d'anciens harcelés, je sais pas, vous pouvez avoir plein de points de vue là-dessus, bah, n'hésitez pas, venez m'en parler, venez en parler sur le Discord, c'est très bienveillant. Et voilà, les liens sont en description, donc tout ça, c'est, je rappelle, hein, les dramaturgies, le principe c'est d'ouvrir au dialogue. Et d'ailleurs, merci encore à toutes les personnes qui ont partagé leur point de vue, leur ressentiment et leur ressenti sur l'épisode précédent. C'est toujours agréable de vous lire. Allez, ça fait plus de 20 minutes, je vous embrasse, à bientôt, ciao!